Le Tailgate Podcast. We are back. Let's go.
Ouf de ouf que ça rock à Charny.
Bienvenue tout le monde et merci d'être à l'écoute de ce nouvel épisode du Tailgate Podcast. Mon nom est Nicolas Mayrou et comme à l'habitude, je suis accompagné de mon fidèle animateur, Monsieur Nicolas Paco.
Salut!
Salut Nick! Très content d'être avec vous encore une fois cette semaine pour discuter de football. Comme vous l'avez probablement entendu, ça a été une grosse semaine au niveau de l'actualité dans la NFL. Donc bien évidemment qu'on va faire un tour de cela. Également, petite prévision de la semaine à venir. Et on répond à vos questions que vous avez posées sur Instagram. Merci encore pour les questions. C'est vraiment plaisant. Ça nous donne des choses de plus à discuter. Puis en plus, on peut vous aider sur des questions fantasy ou autres. Comme vous avez marqué aujourd'hui, je n'ai pas fait l'introduction de aucun invité. Donc, c'est la première fois que moi et Nico allons Raw Dog le Tailgate pour cette saison. Nous serons seulement deux. Donc, potentiellement un épisode un petit peu plus court, mais bien chargé et bien rempli d'infos utiles. Au niveau football, j'ai dit un mot déjà en entrée de jeu sur l'actualité de la NFL, Nico. Je pense qu'on devrait commencer par regarder ça ensemble.
Effectivement. Ce que Aaron veut, Aaron aura. Alors, il y a eu le coach dehors. Ben, on ne sait pas trop, mais on peut spéculer. Et il a voulu avoir son bon vieux Dog Hunte Adams. Alors, chose faite. Le duo, le meilleur duo des années 2020 et 2019.
Ouais, exact.
Non, c'est 2021, excusez-moi.
Pour ceux qui se rappellent, Devante Adams et Aaron Rodgers étaient coéquipiers à Green Bay. Et c'était deux saisons du tonnerre à ces deux dernières saisons. Ouais. On aura la chance d'en parler peut-être un petit peu plus tard dans l'épisode, étant donné que vous avez des questions par rapport à ce sujet cette semaine. Donc, on ira plus profondément sur la question de Devante Adams. Mais je pense qu'on peut quand même parler un petit peu de l'impact que ça aura sur ses autres coéquipiers des Jets. Comme vous savez, surtout au volet fantasy, c'est rare d'avoir une attaque avec autant de joueurs qui sont potentiellement relevant pour le fantasy. Alors, ça sera quoi l'impact pour les Breesaw, Garrett Wilson et même Alan Lazard, qui encore à ce jour est un top 15 receveur en PPR? Ben, personnellement, je vais te demander ton avis après, Nico, mais je pense que ça va pas changer grand-chose pour ces gars-là. Je pense que ça va peut-être juste plus diversifier leur attaque et même plus les faire produire. Peut-être au niveau de Breesaw, le niveau des targets va peut-être diminuer un peu légèrement, parce que là, c'est sûr que tu as deux alphas au poste de receveur qui vont demander des targets, c'est certain. Mais je serais pas inquiet pour Garrett Wilson. Par contre, Alan Lazard...
Moi, je pense que c'est...
c'est lui qui va prendre une drop. Ouais.
Ben, on le voyait un peu en écoutant un game des Jets que quand que Aaron savait pas trop third down, son gars de confiance c'était comme un peu Alan Lazard, comme on l'a vu sur le Hail Mary dernière game.
Exact.
Là, je pense que maintenant ça va être Monsieur Devante Adams. Puis un autre qui va beaucoup écoper, qui aurait sûrement écopé quand même, c'est Mike Williams, que sûrement personne avait dans son pool.
Mike Williams qui a d'ailleurs commis une grave erreur en fin de match contre les Bills la semaine dernière. Est-ce qu'il n'aurait pas run le bon route en plus sans l'attraper? Donc les Jets qui se sont inclinés à cause de ça contre les Bills.
Ouais.
Et les Bills, même division que les Jets, qui ont répondu par la bouche de leur canon en faisant l'acquisition de Amari Cooper des Browns de Cleveland. Que penses-tu de cet échange, autant pour les Bills que pour Cleveland?
Ben, pour Cleveland, c'est une saison qui s'en allait nulle part, fait que je pense que c'est correct. On n'en parlera pas trop, mais pour les Bills, ben aussi c'est bon, c'est une target de plus, mais je pense que l'attaque des Bills cette année, c'est vraiment diversifié, puis tout le monde touche au ballon, je pense que ça va pas changer. C'est sûr qu'il est quand même, selon moi, le receveur numéro 1 là-bas.
C'est sûr, oui, en ce moment, c'est Khalil Shakir, mais Shakir
prend plus sa place.
Slot, fait qu'il prend pas sa place, effectivement.
Mais tu sais, oui, ça va être. Si mettons que Cooper, il va être dans une meilleure position que si tu l'avais à Cleveland. Mais c'est sûr, tu sais, il va. C'est sûr que Cooper va recommencer à nous sortir une game sur deux de 100 verges, peut-être.
Ouais,
ou sur 3 ou sur 4. Mais
il va avoir des passes attrapables au moins, là. Ça va déjà le rendre heureux. Peut-être les gars qui vont écoper dans leur attaque. Dalton Kincaid qui était somme toute encourageant dans les dernières semaines avec son nouveau target qui montait.
Moi je pense que personne ne va écoper. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est juste la même chose pour Breece Hall et Williams, Wilson, c'est que si l'attaque est meilleure, ça donne plus d'opportunités à tout le monde, plus de temps sur le terrain. Fait que moi, je pense que vu de même, c'est quasiment mieux pour tout le monde.
Exact, exact. Donc, c'est pas mal les deux grosses nouvelles qui sont un peu reliées de cette semaine. Il y a eu un autre échange aussi mineur, Cam Akers qui retourne avec les Vikings.
Ah oui, c'est bon ça.
Il est allé avec les Vikings l'année dernière en fin de saison. Lorsque le move est arrivé, plusieurs spéculaient sur la gravité de la blessure de Aaron Jones. Finalement, tout indique qu'il va être en uniforme cette semaine. Donc, ouais, Cam Akers, c'est peut-être plus un visage familier qu'on veut ramener en cas de sûreté. Ben, c'est pas l'échange qui a le plus gros impact au niveau, mais c'est quand même bien de le mentionner. Dans l'actualité, il y a également un autre sujet qui m'a un petit peu titillé lorsque j'en ai entendu parler. Les Steelers qui starteraient Russell Wilson.
Ben, je pense que c'est officiel. Là.
Sunday night, effectivement. Ouais. Contre les Jets.
C'est complètement bizarre.
Alors, ouais, c'est complètement bizarre. Les Steelers, présentement, qui sont dans une somme toute une bonne posture à 4-2, sont un match derrière les Bengals pour les Ravens pour la division, si je ne me trompe pas.
Ben, ouais, ils ont la même fiche, hein, que nous, on a gagné. Exactement. Je dis nous. Les Ravens ont gagné une game dans. À la fois, comment ça marche, ils gagnent une game dans la division.
Exact.
Les Steelers n'ont pas encore joué dans la division, fait que c'est pour ça qu'on est en haut deux autres.
Exactement, mais ils sont à 4-2, ils sont dans une bonne posture. On peut jouer du mauvais football cette saison. Puis là, Justin Fields qui va aller au banc, on favorise Russell Wilson.
Moi, ce que je trouve surtout bizarre, c'est que tu pognes les Jets, qui est probablement la meilleure attaque contre la passe ou une des meilleures. Puis t'avais Justin Fields qui est le QB parfait pour courir la balle. Puis
pour
là, finalement.
Le clock, ouais. Pour pas leur laisser le ballon de la game.
Puis là, tu mets finalement Russell Wilson qui va sûrement plus passer que.
Qui va jamais. Il scramblera pas.
Puis, ben, tu sais, ils peuvent quand même courir avec leur porteur, mais.
Effectivement.
Bref, je trouve que c'est pas la meilleure game, surtout qu'il était 4-2 puis que l'attaque produisait.
Ouais.
Même Fields, il y a des beaux chiffres.
Il y a des bons chiffres. Et même, j'aime toujours faire ça le parallèle fantasy, mais il y a quand même à faire des bons services, ouais, à ceux qui l'avaient pris en fantasy, probablement parce que votre carrière s'était blessé ou il faisait pas le travail. Mais il y a pas une mauvaise saison de Justin Fields. Puis on était avec Picard la semaine dernière sur le podcast. Puis
lui, ouais, il vantait, pas de bonne
puis il pensait qu'il pouvait build around Fields, puis que c'était peut-être une solution pour le futur moyen rapproché. C'est assez bizarre comme move. Par contre, encore une fois, je me demande qu'est-ce qui va être l'impact. J'aime quand même ça pour George Pickens. Je sais pas si tu es du même avis. Je pense que c'est un meilleur distributeur de ballon, clairement.
Ouais,
plus d'opportunités.
Sûr. Mais pour tous les receveurs. Même une autre affaire, peut-être pour même Jalen Warren.
Oui, c'est
plus que Najee Harris.
Oui,
mais...
parce que Jalen Warren, dans la saison, ouais, on l'a vu qu'il était très, très utile dans le jeu par la passe, third down back, etc. C'est sûr que le style de jeu de Russ...
Sauf que Najee joue très bien. C'est
Najee
comme,
a une très bonne saison, effectivement. Encore une grosse performance cette semaine. Donc ça, je trouvais ça un petit peu spécial. Je voulais le mentionner aux auditeurs.
Puis, d'après moi, Russell, ça pourrait faire pas long feu. Ça, je serais pas surpris, genre une ou deux games, mettons.
Si ça va vraiment mal.
Perdre contre les Jets, après ça, c'est Giants. Si perdre contre les Giants, ça pourrait être...
Ça pourrait être out de jeu. Hein.
Ouais,
de
parce façon, qu'après ça, c'est Commanders-Ravens. Ça va être...
C'est ça.
Ça pourrait être un 0-4, ça, là.
Exactement. Puis Russell Wilson, s'il se fait bench, il ressort plus une game là, de toute façon.
Ouais.
C'est son shot là.
Plus une game tout court, peut-être même.
Ouais, c'est ça. C'est son shot de montrer qu'il est encore un bon joueur de football comme carrière dans NFL. Mais permettez-moi d'avoir certains doutes. Ça fait pas mal le tour au niveau de l'actualité. Bien évidemment, on parle des grandes lignes. Mais on va quand même aller faire un tour de ce qui s'est passé la semaine dernière dans la NFL. Plusieurs matchs quand même très intéressants. La semaine dernière, au moment de l'enregistrement du podcast, on s'en allait écouter un potentiel bon match qui était Niners contre Seahawks. Ça a été un bon match. Un bon match des Niners, particulièrement, je trouve, qui réussissent justement à se remettre nez à nez avec les Seahawks dans la division, à 3-3 les deux. On a vu encore un nouveau running back dans le backfield des Niners.
Shanahan, peu importe c'est qui son running back, il va produire, c'est...
Ouais, exact. Donc Jordan Mason qui a quitté le match temporairement.
Il est comme quitté, puis il a rejoué un jeu, puis
il a quitté, exactement. Bizarre, donc il a pas eu. Donc on a vu Isaac Guerrero, 10 ouais, carries pour 99 verges.
Ben, c'est sûr qu'il y en a un à la fin qui a comme un peu boosté ses stats.
Ouais, il y a comme une donnée aberrante ici. Ouais. Après ça, ben, Big Play Debo. 3 réceptions, 102 verges, un touchdown. ça fait du bien au fantasy.
Kittle 2 touchés, Titan 1 en
fantasy. Kittle qui a une bonne saison, puis il y a beaucoup plus de constance que dans les dernières saisons, je trouve. Au niveau des statistiques, ouais. Du moins, hein. D'habitude on le voyait plus, il boomait une fois sur cinq, ouais. Genre quatre fois dans la saison, beaucoup plus de constance, fait que c'est bon à voir. C'est sûr qu'on avait Ayuk, je suis pas au même niveau qu'on, l'espérait, et peut-être que c'est justement là que Kittle peut faire une petite différence. Fait intéressant sur le match, Nick Bosa a eu 14 pressions sur le corps arrière dans le match, c'est absolument énorme. Il a eu aucun sac.
Ah ouais.
C'est assez spécial. Mais
Gino est capable de.
Il a été dans le backfield toute la game. La O-line des Seahawks fait vraiment dur. C'est vraiment difficile pour eux. Autre statistique intéressante, Kenneth Walker, 8 catches, seulement pour 37 verges. Mais en PPR, ça vaut vraiment la peine. Puisqu'il a juste couru pour 14 fois pour 32 verges, mais quand même touché. Et puis, DK Metcalf, comment ça... On dirait que je m'attendais à plus de grosses performances de lui cette année. Il y a eu des bons matchs, là, mais on dirait que ça fait deux matchs qui est un peu...
Jackson, Smith, Nigba prend de la place de plus en plus.
Puis Lockett,
Lockett est toujours là.
Oublier, ça fait combien de temps qu'on dit que Papy Lockett est dû pour régresser. Il reste toujours une des cibles favorites à Geno Smith. Donc, encore une fois, les Seahawks, c'est une attaque où... Tu peux distribuer le ballon à tellement de joueurs que c'est ça qui ça fait la... Ça rend ça difficile niveau fantasy, mais ça fait des très bonnes équipes de football, malheureusement. Défaite 36-24 contre les Niners la semaine passée. Après ça, on avait la première game overseas, si je me trompe pas, avec la première game en Europe. Ah non, la VGS avait joué contre les Bills, ouais. La semaine précédente.
Non, contre les Pats.
Les Jets avaient joué contre Miami.
Non, c'est ça.
C'est ça. On est un petit peu mêlés ici. Donc, les Jaguars qui jouent le premier match à domicile cette saison à Londres.
Devant leurs fans.
Devant leurs fans à Londres. Ils se sont fait complètement exploser par les Bears.
Je comprends pas pareil, les Jags, il me semble qu'ils ont des bons joueurs.
Sur papier, ils ont des très bons joueurs, c'est ça qui est vraiment spécial, mais la défense des Bears cette année est vraiment impressionnante, ouais. Honnêtement. Puis quand t'as Caleb Williams qui joue comme il joue présentement, ça va être difficile de battre les Bears, honnêtement. Puis il est tellement loadé, c'est ça qu'on disait dans le...
On n'a jamais vu un carrière arriver dans une
organisation autant
bien entourée
favorable que... à son succès. Vraiment. Les joueurs qui ont eu des grosses performances, j'ai dit Caleb Williams, 23 en 29 pour 226 verges, 4 touchdowns pour une interception. Donc une très bonne journée par la passe pour Caleb Williams. DeAndre Swift encore un bon match par la course. Il va falloir qu'on ait une sérieuse conversation sur DeAndre Swift. Alors début de saison, tout le monde disait que c'était un fluke, là, mais là ça fait 3-4 bons matchs qui éclenchent. Là. Donc ça c'est à voir. Puis quelque chose que j'ai remarqué dans ce match-là, Keenan Allen s'en vient en santé. Puis je pense que ça va faire mal à tous les receveurs des Bears en fantasy, parce que de la façon que je l'ai vu jouer en fin de semaine, là, j'ai vraiment l'impression que Caleb Williams est un peu comme un coussin de sûreté, mais également un gars qui peut faire des gros jeux. Là. C'est sûr qu'il y a eu deux touchdowns en fin de semaine dernière, mais juste la façon qu'il sauvait le ballon, la façon que Williams le regardait, j'ai vraiment l'impression que pour ceux qui, comme moi, qui ont DJ Moore comme moi, receiver 1 dans une ligue, je commence à avoir les jetons pas mal à ce niveau-là. Fait que c'est ça, mais encore une grosse victoire des Bears qui move à 4-2 et une grosse performance de leur défense. Je sais pas, ils ont combien de force fumbles, mais il me semble que c'était le festival des fumbles dans cette game-là. Et puis, bref, c'est ça. Alors, la semaine passée, on a parlé de Spencer Rattler qui allait avoir son premier départ dans la NFL.
Ça a bien commencé.
Ça a bien commencé au début, je pense que...
Mais 17-0, je pense.
C'est les Bucks, mais 17-0.
Ah, ouais. Ah, c'est ça.
Après ça, ils ont remonté. Les Saints sont remontés pour les égaliser. Puis après ça...
Après ça,
les Bucks ont pris le contrôle du navire. Mais Spencer Rattler a pas mal fait, avec 243 verges par la passe. Malheureusement, deux interceptions dans la défaite. Pas des grosses performances pour les receveurs des Saints, ça fait vraiment mal. Foster Moreau.
On a su aussi aujourd'hui que Shaheed était out for the season.
Rashid Shaheed va être out pour la saison, donc une très grosse perte.
Ça fait vraiment mal.
Parce que c'est toujours un gars que tu dois planifier ton scheme pour lui. Tellement dangereux sur les jeux dans les zones profondes que t'as pas le choix de le regarder. Ça va rendre l'attaque des Saints un petit peu moins diversifiée. Donc tout le monde qui a lavé. Pray for Olave, mais puis ça pourrait être son shot cette année à redevenir un bon joueur en fantasy, puis juste à sauver sa saison tout court, parce qu'il a vraiment pas été impressionnant cette saison.
J'ai vu du monde démontrer l'intérêt pour Bob Means, là.
Bob Means, ouais. Bob Means, qui a touché le cash.
Ouais, mais je sais pas trop quoi en penser. Ça, on va le voir ce soir au Thursday Night. Mais...
Effectivement, mais avec la perte de Shade, d'autant plus. Ouais. Puis on sait Cedric Wilson aussi, qui est un jeune joueur intéressant à regarder. Mais je pense vraiment que, comme tu dis, Bob Means pourrait avoir des bonnes semaines à venir là, si les Saints continuent à avoir des joueurs sur la touche de cette façon. On a aussi glissé un mot avant le podcast aussi, parce que la semaine passée, on a dit Lamar Jr. contre Lamar, ouais. Commanders Ravens, puis tu m'as dit, qui répète ce que tu m'as dit tantôt, mais...
Ben, c'est exactement le match à quoi je m'attendais. Exact. C'est quand le score est serré, mais tu sais, les Ravens ont été en contrôle de la game, pas mal toute la game. On dirait que c'était pas stressant. À part quand y allait pour... les Commanders y allaient en 4e essai, puis ils l'avaient tout le temps. J'ai vu une stats, les Commanders en 4e essai sont 9 en 9 cette année.
Hey, tabarouette!
C'est
un weapon que tu peux utiliser.
C'est
quand,
gros.
Quand t'es 9 en 9 de même.
Puis pour de vrai, Jaden Daniels, il est for real. Puis même chose pour Terry.
Terry. Oh, lui, doit être content.
Il est so back.
Lui, il doit être content d'enfin avoir quelqu'un qui peut lui lancer la pilule dans les mains. Ça a pas de bon sens. Là, cette semaine, il a fait un petit peu moins de yardage, mais 2 tutties.
Ouais.
Et puis,
deux beaux en plus. Là.
Ouais, deux méchants beaux catchs de ta jambe. Statistiques de la game aussi que j'ai trouvé intéressante, mais Zay Flowers, elle avait pas genre 8 catchs pour 110 verges à demi.
Il y avait 9% en genre à demi.
Ouais. Il finit avec 10% 32.
Ouais, c'est sûr.
Fait que. Puis encore, on en parle à chaque semaine, le King. le King est so bad. Encore deux touchdowns cette semaine, il dit 132 verges au sol. C'est complètement nasty.
Il était à 700 verges au sol en 6e. Puis le deuxième était à genre 5, 6, a, un peu moins de 600. 6 touchés, 8 touchés en 6 games.
Fait que tabarouette, tu pourrais bien faire avant de toucher cette année. Hein.
Ouais, comme je l'ai callé dans la semaine passée, c'est votre Offensive Player of the Year.
C'est vrai.
À part qu'il se casse le pied comme il y a 2-3 ans.
C'est vrai. Mais les Ravens qui ont hold on finalement en fin de match pour remporter 30 à 23 contre les Commanders qui didn't go down without a fight. Bon match des Commanders qui prouvent encore une fois qu'ils vont être compétitifs cette année. Peut-être un petit mot sur la game des Pats contre les Texans, parce que comme on a mentionné la semaine dernière, c'était le premier départ de Drake May en carrière, contre une assez bonne défense, on va se le dire, à Houston. Il a pas mal fait, 243 verges par les airs, et 3 touchés surtout, c'est surtout ça que je retiens.
Mais ça, je trouve que le monde s'emballe un peu avec ça, parce qu'il a fait ces 3 touchés-là, puis c'est
verges. En garbage time,
quand les Houston avaient arrêté de jouer, fait que tu sais. C'est
sûr qu'il y en a à prendre puis il y en a à laisser.
Il y en a, ouais, c'est sûr. On va se garder une.
On va se calmer pour pas un petit peu, mais c'est quand même.
C'est vrai que c'est mieux, ça plus encourageant que Jacoby Brissett, ça c'est certain.
Ouais. Puis justement, les receveurs des Pats, là, de Mario Douglas, il est un joueur très agile, ouais. C'est un flashy player.
Ils sont jeunes, les receveurs. Je t'allais pas une fois l'orage pour savoir.
Keyshawn Boutte.
Tous des gars de 23 ans, ouais.
J'avais connu la semaine passée que Jalen Polk pourrait peut-être devenir le tank d'air 2.0. Il a eu une réception pour 4 verges la semaine dernière.
Moi, j'aime quand même ton take. Je pense qu'on peut être patient avec lui.
Exact. Mais DeMario Douglas, peut-être, vaut un petit look. Là, ça veut une deep league. Il pourrait peut-être devenir un joueur, peut-être pas avec un très gros haut ceiling en fantasy, mais peut-être un floor assez respectable si vous êtes vraiment dans le jeu. Les Eagles... qui gagne avec
de peine et de misère contre les pauvres Browns.
Contre les pauvres Browns. Très bon match pour AJ Brown. Un petit peu moins pour Saquon Barkley qui avait commencé l'année vraiment du bon pied. On espère que ce même pied-là, il va pas se le blesser hein, parce que ça pourrait vraiment être son genre. Mais AJ Brown, 6 réceptions pour 116 verges, un touché, dont un gros jeu. Et de même que Devante Smith qui faisait également son retour cette semaine avec 3 réceptions, 67 verges, un touchdown.
Ça a été difficile, mais au moins ça a quand même paru que les deux étaient de retour.
Au moins, parce que sans les autres.
Ça a aidé Jalen Hurts qui avait. L'air un peu plus ordinaire sans eux.
Il a l'air un petit peu plus ordinaire cette saison, je dirais. Je suis profondément un Eagle hater, mais je parle avec.
Le gros Kelsey pour faire des touches-push, fait que c'est un peu moins évident.
Puis DeSean Watson, c'est encore n'importe quoi pour les Browns.
Lui, je sais même pas ce qu'il fait encore jouer.
Ben,
c'est à cause du contrat.
Ouais, c'est ça, mais c'est n'importe quoi. Là. 168 verges, aucun touchdown, aucune interception.
En plus, là, il perd son receveur 1. Ça, par contre, je pense que ça pourrait être bon pour les owners de David Njoku.
Oui, effectivement.
Parce que Judy, par contre, je le vois pas vraiment.
Judy a de la misère à tuer le ballon cette année. Ça n'a pas de sens. Alors, ouais, c'est ça. Fait que Njoku aurait vraiment le potentiel d'en venir top 5. top 5 tight end cette saison, j'ai bien l'impression, honnêtement. Puis sinon, dans leur attaque, ben là, on va surveiller le retour de Nick Chubb potentiellement cette semaine, je pense.
Ben, c'est pas officiel, mais tout porte à croire que oui.
Ouais, si c'est pas cette semaine, ça va être la semaine prochaine. Donc, s'il y en a qui l'avaient mis sur leur ER depuis le début de la saison, puis qui attendaient ce moment-là, je pense que tu l'as fait dans une coupe de ligue. Ouais.
Puis, le gars a l'air prêt, il a l'air d'avoir faim, puis.
Ouais, c'est ça, c'est Nick Chubb.
Mais c'est dans une attaque aussi pas, je pense pas. Pas que ça va être.
Ben, il va avoir. Puis en plus, il y a un gars qui revient d'une blessure aussi sérieuse sur un même genou qui avait déjà eu la même blessure. Tu veux-tu le faire courir 30 fois par game?
Ouais, c'est ça.
Je pense pas au début. Mais.
Je pense pas avoir beaucoup, surtout d'opportunités dans le red zone. Puis on sait que c'est ça qui est payant en fantasy, ouais, des touchés.
Exactement, exactement. Après ça, j'ai deux massacres à vous parler. Non. Un massacre puis un autre match. Le premier massacre, vous l'aurez peut-être deviné, mais les Lions qui s'en vont à Dallas et qui exposent les Cowboys.
C'est épouvantable. Quand ils commencent à faire des jeux pour que le O-Line fasse des receiving touchdowns.
Le O-Line qui était line-up wide à un moment donné dans un game. Jameson Williams encore un big play threat. Sam Laporta, enfin, aussi, en tant que proud owner, il a fait un catch.
Par contre, il y a tellement de monde qui ont balayé parce que.
Ouais, là, c'est sûr qu'ils ont, vraiment
rejoué.
Mais ça feel good. Les Lions, la dernière semaine sur le podcast, je vous avais dit qu'ils. J'ai trouvé un petit peu moins convaincant que les dernières années. Là, c'est. De l'année passée, pardon. Mais là, c'est sérieux, avec cette game-là, ils viennent de me prove wrong. Encore une fois, je me fais prove wrong sur le tailgate podcast, mais les Lions qui sortent une grosse game et qui move à 4-1.
Pour vrai, les Lions, je serais pas surpris de les voir au Super Bowl. Même si personnellement, je les aime pas tant que ça.
Je pense qu'ils ont un clear path to the NFC Championship.
Ouais, ça oui.
Puis.
Parce qu'ils pourraient facilement.
Tu sais, pensé si l'autre avait pas fait le. Sur leur coach, avait pas fait le taré.
Ouais.
Il l'avait, là.
Non, il venait 21-0 à demi.
Ouais, c'est ça.
Mais le problème des Lions, ben, c'est pas tant leur problème, mais c'est que leur division cette année est forte.
Est forte en tabac.
Tu prends deux fois Bears, deux fois Vikings, puis deux fois Packers. Et...
Ouais, c'est ça. À un moment donné, ça va être des games que ça peut aller d'un bord ou de l'autre, puis à la fin, ça va, qu'est-ce que ça va donner au niveau du classement.
Ouais.
L'autre match que je voulais dire, je parlais de mon équipe, enfin, les Giants qui ont offert une piètre performance en Sunday night sous les lumières du MetLife Stadium. La défense qui a bien performé, parce que l'attaque des Bengals, on la connaît, on l'a déjà connue sous de meilleurs jours. Par contre, l'attaque des Giants, c'est complètement misérable, ça n'avait pas de bon sens.
Ben, il vous manquait quand même, mais votre protégé, Malik Nabers.
Effectivement, Malik Nabers et Devin Singletary, qui est le premier running back.
Par qui contre, est maintenant rendu deuxième running back.
Tyrann Tracy est très impressionnant, et surtout au niveau fantasy, parce que...
J'ai lu un peu que c'est un receveur au
collège. C'est un receveur, puis après ça, sa senior year, il était à Purdue, puis à Purdue, il a switch running back. Fait que...
Je suis surpris pareil, tu regardes la shape, il n'a pas l'air d'un...
Non, il n'a pas l'air de recevoir. Il n'a pas une shape de running back, mais ça paraît vraiment dans ses statistiques et dans son implication dans l'attaque. Il y a eu 17 carries pour 50 verges au sol avec le seul touchdown des Giants, mais également 6 réceptions pour 57 verges, pour une moyenne de 9.5 verges par réception. C'est vraiment bon. Cette semaine, là, Devin Singletary est censé revenir.
C'est
le hâte de voir qu'est-ce que ça va dire, parce que je crois que bien qu'il.
Ça pourrait être du 50-50, d'après moi. Peut-être 60-40 Singletary pour commencer.
Effectivement. Puis... Pour ceux qui l'avaient ramassé en fantasy, je pense qu'il nous a fait des forts services dans les dernières semaines. Je m'attends un petit peu à une régression au niveau de sa performance, niveau PPR particulièrement. Mais c'est sûr qu'il va encore avoir des réceptions. Par contre, ça va être difficile de le mettre dans vos line-up si vous n'avez pas vraiment une deep league. Et finalement, on finit la semaine avec le match Bills-Jets. On en a glissé un mot tantôt, mais les Bills, on l'avait dit la semaine passée, les Jets, c'est la game qu'ils peuvent pas échapper s'ils veulent encore faire les playoffs. Ça aussi, on va en parler un peu plus tard dans l'épisode. Mais une défaite assez... Une victoire très importante des Bills
pour la division, au match de la Stadium.
C'est vraiment, vraiment important. J'ai bien aimé la performance de Ray Davis, qui était
corner pendant 5-8, 2-20.
C'est
n'importe quoi.
C'est un esti de Bill.
Puis son catch de genre à la ligne de genre 5, d'un catch de 42 verges.
Ouais, n'importe quoi. Il joue une très grosse performance. Ouais. La seule affaire qui est plate, c'est que parce que les Bills ont annoncé que James Cook était out juste avant le match. Ouais. Fait que pour ceux qui l'avaient
gardé... Ben, il était quand même Q, là. Fait que faut que tu, quand même, que tu te prépares
quand ton recue, il joue le lundi, c'est sûr que tu te prépares en conséquence.
Faut que tu sois prêt à avoir un petit spot de libre sur l'ailleurs, puis...
Pour ceux qui croyaient au rêve, par contre,
j'espère... Ben, si t'es allé chercher, il
Fait que t'es allé chercher Ray Davis.
Ray Davis, ouais, excuse-moi.
Mais c'est comme notre... un de nos collaborateurs, M. Simard, qui a dit qu'il a fait dans une autre ligue, il jouait contre James Cook. Il a appris que James Cook était out, fait qu'il est allé snag Ray Davis au
juste waiver, pour bloquer,
juste pour bloquer le move. Fait que ça, c'est les joies du fantasy parfois. Il faut ce qu'il faut. Ça fait pas mal le tour en ce qui a trait à la dernière semaine dans la NFL. Comme à l'habitude, on va faire le petit segment NCAA et le petit update sur le joueur qui devient notre idole, Ashton Jeanty. Donc, en date de la semaine dernière,
j'ai fait un bet sur Ashton Jeanty cette semaine. J'ai mis genre 100, tu fais jamais ça sur des joueurs. Le parlay c'était Ashton Jeanty 150 verges par la course, 2 touchés, puis genre money line
Boise State
genre, puis c'était une cote de 2, puis ça y est, tu sais.
Cote de 2. Je pense que son multi touchdown scorer, donc 2 et plus, je pense qu'il était à 1.055.
Ouais, c'est ça, il est en. Non, c'est plus que ça un peu, là.
C'est ouais, genre un point. C'est
un point de 55.
C'est crazy. Et puis, ben, il a show out, là, comme Nick l'a dit, son bête hit, là. Donc, la semaine dernière, contre Hawaii, 31 carries, 217 verges et un touchdown. Avec encore sa plus longue course de 54 verges. C'est n'importe quoi. Il a maintenant 1248 verges, 17 touchés cette saison.
S'il ne se blesse pas, il faut vraiment qu'il aille l'Heisman. Ben, il va l'avoir.
Je ne peux pas croire. Là. C'est trop
tout le monde en parle. Ouais, puis
exactement.
En plus, dans un programme.
Un programme qui n'est pas un top programme de la
Ligue. Mais ils sont rendus dans le top 25.
Ils sont vraiment frais parce qu'ils jouent sur un terrain bleu. Pour ceux qui ne savent pas, vous allez voir le terrain de Boise State.
On le voit assez, le terrain sur TikTok. On le voit
sur Instagram avec lui qui est comme Michael Myers dans le backfield.
Ah oui!
Il est droit comme une barre, la moitié est barre.
Mais c'est vrai, ça?
Ouais, c'est vraiment vrai. Sinon, les matchs en fin de semaine, on a deux gros match-ups en vue. Alabama, on vous en a parlé la semaine dernière suite à leur upset, mais qui vont affronter cette semaine. Tennessee, Alabama qui sont maintenant rankés 11e aux États-Unis, et Tennessee qui sont 11e. Donc ça va être un très bon match, et c'est à Knoxville, Tennessee, en fin de semaine. Et finalement, ce qui est selon moi le match-up de la semaine, et je pense que tout le monde va être d'accord, mais Texas affronte Georgia à la maison. Donc Texas qui sont rankés numéro 1, Quinn Ewers qui a fait son retour au jeu la semaine dernière, malheureusement Arch Manning qu'on vous a parlé dans le podcast cette saison.
On le verra l'an prochain
contre les puissants Bulldogs de Georgia qui eux aussi ont échappé un match récemment, donc sont maintenant rankés 5, mais sont une excellente...
Ils ont échappé un match contre Bama, fait.
Non, ouais, c'est ça. Ouais, mais quand même, c'était dur celui-là, je pense. Mais Carson Beck, leur carrière, on s'attend peut-être à des qui était le favori pour l'Heisman en début de saison, ou un des favoris. Ouais. On s'attend un petit peu plus de lui, donc ça sera
certainement... Il est tellement pas là, j'ai un QB quand tu le regardes, ce gars-là.
Ouais, c'est vrai.
Une drôle de...
Ouais. Donc ça, c'est à 7h30 samedi soir. Et puis pour le match Alabama contre Tennessee, ça va être à 3h30 samedi soir.
Si on reste plus local, t'as-tu suivi un peu la game des Carabins contre les Rouges et Or?
Crazy show.
Ouais, c'était...
J'ai pas regardé en profondeur. Pour ceux qui savent pas, le football canadien, j'ai un petit peu de la difficulté.
T'as la phobie des trois essais.
J'ai un petit peu de la difficulté à regarder ça, mais c'est sûr que dans le moment, la game de Laval, je regarde ça.
Parce que d'habitude, t'es habitué à des genres de 17-15, mais là, c'était 32-31, c'était une grosse game.
Ouais, puis les méchants gros catch de touchdown. Ouais.
Un bon show, puis dans le fond, vu que le Rougeur avait battu
Carabin
par 1, fallait que Carabin les rebatte par plus que 1 pour hoster la finale d'Undermore.
Puis là, c'est...
Mais là, finalement, Carabin a gagné par 1. Fait que c'est quand même Rougeur qui va hoster la finale. Fait que ça, c'est quand même bon pour nous.
C'est bon parce que
des fois, on aime ça aller voir ça.
Ouais, c'est ça. On aime ça y aller quand même en vrai. À TV, c'est sûr que c'est un petit peu moins. Mais là, c'est sûr que sur une finale de la Coupe d'Undermore, ça rend la chose vraiment plus intéressante. Ça va être sur d'autres. À Québec, ils vont faire un whiteout. Ça va être secret.
Puis ouais, ça va être cool. Puis je sais pas si t'as vu à la fin. Le gros Glenn, là, dans le fond, genre, s'il perdait par 1, il était correct pour la Dunsmore, puis on dirait qu'il essayait encore de gagner la game.
Wow.
Pendant une coupe de jeu, avec là, le monde était genre.
Slack mon Glenn.
Arrête ça, là. Faut pas que laisse pas le temps à Jonathan Seneca d'aller faire des points. Fait que finalement, il a fini par mettre le genou à la fin.
Tout est bien qu'il finit bien, mais c'est vrai que.
Ouais.
Quand tu, ben, tu sais, c'est sûr que lui, dans la game, dans le moment, lui, il veut gagner. Tu sais, c'est un compétiteur, un coach, mais c'est vrai que quand tu penses à pas ça, t'es comme.
Ouais, c'est quand même un gros avantage d'avoir ça en maison.
Ben, oui.
Pas juste un avantage pour la l'équipe, c'est un avantage pour le propriétaire financier, là, ouais, la finale ben de... Oui,
ben oui. C'est ça, je sais pas si...
Je sais pas c'est combien, là, mais...
Je sais pas si Jean-Tanguy a dit dans le micro que t'avais dit pendant la game.
Hey, Glenn, hey, slack, là.
Chris, le genou à terre, mon Glenn. ouais, donc c'est une défaite de Laval, mais comme tu dis, la Coupe d'Andemont qui va être de retour à l'équipe, ben... Dans l'éventualité
aussi. Ben, moi, ben, on sait jamais. La pensée, ça passait proche que c'est allant au T contre Concordieux.
Oui, c'est vrai.
Au Gérard.
Effectivement. Fait que dans l'éventualité où ils se rendent là, c'est sûr qu'ils seront. Ce sera un match local pour le Rouge Géant. Après ça, on a une belle semaine qui s'en vient dans NFL.
Il y a des gros match-up.
Gros match-up, effectivement. Parlons un petit peu de ça. Ce soir.
Donc, non, ça c'est pas un gros match-up.
Pour moi, non. Je vais vraiment en parler vu que c'est une game prime time, mais donc hier pour au moment du release du podcast ou ce soir, bref, les Broncos qui affrontent les Saints dans le Dôme. Est-ce que tu aurais
cru. C'est le retour de Sean Payton à
Nouvelle-Orléans, effectivement. Et est-ce que tu aurais cru que les Broncos auraient une meilleure fiche des Saints à ce match-up-là?
Après deux games, quand c'était 2-0, puis ça avait sacré deux volets.
Les Glazers, tu le podcast, ouais. Quand on dit qu'ils ont sorti des contenders, puis tout.
Ben moi, j'aurais, à ce moment-là, j'aurais jamais dit ça, mais là, une fois qu'on a plus d'échantillonnage, on voit que la défense des Broncos est vraiment forte.
Effectivement.
Puis les Saints, je sais pas trop ce qui s'est. En fait, les Saints, j'ai la misère à expliquer ce qui s'est passé. Je pense qu'ils étaient juste joués au-dessus de leur tête, puis.
C'est ça. C'est ce concours de circonstances, peut-être. Mais Chris Olave qui jouera pas ce soir pour les Saints non plus.
Ouais, ça va être rough avec
le. Donc, malgré ce que j'ai dit plus tôt dans le podcast, même la blessure de Shade, ça va attendre un petit peu peut-être avant l'éclosion de Olave. Et puis, quand même un gros morceau chez la défense des Broncos qui sera pas là. Pat Surtain qui est out. Donc, ça va faire mal aux Broncos. Mais je m'attends que ce soit quand même un match serré.
Moi, Bonnick, je le trouve vraiment pas pire. Fait que je m'attends une victoire des.
C'est sûr qu'il est pas mal plus âgé que la moyenne des coréens qui arrivent dans la ligne normalement.
Ça, il change aussi vieux que genre.
Genre là, j'ai Herbert.
Ouais, genre là, j'ai la mort Herbert. Puis tout, ouais, c'est peut-être pas. Là, ils ont eu 2 ans, peut-être de moins.
On pourrait vérifier.
Mais les gars, ça fait 7 ans qu'ils sont dans la ligue. Puis sont...
lui, il a fait la full ride au college. Fait que c'est sûr que ça aide. Il est un petit peu plus mature, a vu un peu plus de football dans sa vie, mais c'est vrai qu'il est pas mauvais, puis il est capable de bien utiliser ses jambes au besoin aussi, donc effectivement je l'aime. Puis
ouais, il a 24, ben, c'est ça.
C'est ça, fait que c'est quand même assez vieux quoi, pour les QB.
Ouais. Ben, Lawrence est rentré à 21, fait que...
T'as-tu des bêtes pour ce soir, ce game-là? Ouais.
Non. Je m'attends une grosse game, par contre, de Courtland Sutton, peut-être.
Ben, ouais. Il va être match-up comme Marshon Lattimore, probablement, ce soir. Ça va être un bon match-up pour lui.
Quand même.
Mais.
Je sais pas.
Je pense que ça va peut-être être weirdly interesting parce que ça va être serré. Parce
bon, on va voir des nouveaux joueurs.
Parce que les Saints ont rien, puis les Saints ont plus rien qui, comme starter à l'attaque à part Camara, puis Denver ont tout à gagner.
Ouais.
Fait que.
Comeback aussi de Sean Payton, c'est quand même.
Ouais, comeback de Sean Payton. On va voir la réaction de la foule à son retour.
Ouais, je peux pas lui.
Non, ben non, c'est vrai, c'est pas de sa faute. Après ça, donc les Jags qui poursuivent leur stint à domicile, qui vont justement jouer à Wembley en fin de semaine.
S'ils perdent à la maison contre les Pats, c'est un scandale.
Les Pats, c'est le worst possible matchup pour une game à Londres, je pense. Les fans anglais doivent complètement être au désarroi présentement.
Ben, avec Drake May qui arrive, au moins ça qui est un peu attrayant.
Ouais, j'avoue. J'ai une question. Est-ce que t'es surpris que Doug Peterson soit encore head coach?
Ben moi je pense qu'ils sont.
Là, sont pas à Londres, fait que.
Sont super. Ouais, ils veulent
pas le sacrer dehors.
Ils vont se mettre dehors dans l'avion en revenant, mais. Son Super Bowl avec les Eagles, après moi, ça
joue encore.
Ça l'aide encore.
Ça l'aide encore, effectivement. Je pense pas que c'est un mauvais coach, mais là, c'est désastreux, les Jags.
Mais c'est pas que c'est un mauvais coach, non, mais des fois, quand ça va mal, faut juste prendre la chute.
T'as besoin de la chute.
Mais anyway, je pense que là, leur saison est à.
Est à l'eau.
Est à l'eau, fait qu'ils sont rendus là.
Surtout dans la division avec les Texans qui sont 5-1.
C'est pas comme les Jets qui, tu sais. Ils peuvent faire les.
C'est vrai que la division est très faible, mais dans l'AFC, après ça, ils pourront jamais sortir de là. Là quand je regarde la AFC East avec les Jets, possiblement.
Chargers, mais par contre, la AFC est moins forte que.
Effectivement.
Que l'an passé, puis la NFC est rendue meilleure que la AFC, je pense.
Je pense que, mettons qu'ils commencent à gagner, c'est peut-être pas encore fini à 1-5, mais.
Ben, le frère, il gagne encore 2 au moins de suite, là, mais il a quand même pas eu des gros clubs.
Jacksonville, effectivement. Ouais. Et là, il affronte.
Ah non, ça marche pas.
Calme. Tu es en train de regarder la cédule.
Cancel.
Il affronte.
Il s'en va chez First Pick.
Après ça, c'est les Packers. Après ça, c'est les Eagles. Après ça, c'est les Vikings. Non, après ça, c'est les Lions. Après ça, c'est les Texans. Wow.
Cancel.
Doug Peterson, you got barbecue. Le plus gros match possible, ouais, parce que c'est sans équivoque autant pour
moi. Il y en a deux gros égales que je sais pas quoi dire, c'est quoi le plus gros?
Ouais, effectivement, mais compte tenu des blessures, je pense qu'il y a vraiment. Puis le level of play des deux équipes, je pense vraiment que les Lions Vikings à 13
ans. Game de division.
Game de division à Minnesota. Ça va être bruyant. Les Lions qui arrivent d'une victoire dominante, comme on vous a parlé là, un peu plus tôt dans l'épisode. Puis les Vikings qui jouent de l'excellent football. Fait que ça va être un excellent match, je pense, à voir cette semaine. Et puis l'autre match que tu voulais dire.
Ben, il y en a un autre que je veux dire avant, vite. Texans-Packers, quand même un très bon match.
Ça va être un bon match à regarder.
Mais on n'ira pas dans les détails. Sinon, le match est le rematch du Super Bowl.
Rematch du Super Bowl, effectivement. Puis j'aime beaucoup le match de Sunday Night Ravens qui s'en vont jouer contre les Bucks à Tampa.
Monday Night. Parce qu'il y en a deux, c'est pour ça que tu t'es trompé.
Encore deux Monday Night.
Je sais pas c'est quoi l'affaire de faire ça. Mais c'est le fun quand il y a une game qui est plate, tu peux changer à l'autre. Mais
effectivement.
Je trouve que c'est moins.
Puis le retour du football à Tampa après les passages des ouragans
récemment. Ça fait peur pour les Ravens.
Pour
les
Ravens,
les fans vont être crinqués.
Ouais. C'est sûr. Donc, c'est pas mal les matchs à regarder cette semaine. On vous souhaite une bonne semaine devant votre télé.
Avant de finir, c'est les matchs de la semaine. Penses-tu que les Giants vont
en
parler, vu que t'es un fan? Une match de division qui.
On a parlé du retour de Champagne.
Le retour de Saquon Barkley.
Le retour de Saquon Barkley au MetLife Stadium. Et Calvary va se faire huer ce gars-là. Ça va être n'importe quoi.
Il a dit. Hey, s'il fait un toucher, là. Qu'est-ce qui va se passer là-dedans?
Il
va se faire lancer des trucs.
Ouais, il va se faire lancer des bières, puis toutes des bières pleines de peau ouverte. Ça va n'importe quoi. Mais ouais, j'espère que les Giants vont être capables de gâcher son retour.
Ça serait bon, là, le sexy Dexy qui s'en va les geler.
Sexy rose qui fait une ambulance, je sais quoi. Fait que non, c'est ça va être un bon match avec une belle storyline à regarder.
Sinon, pour finir, on a pris la nouvelle habitude de prendre les questions du public. On a eu, sérieux, cette semaine, vous êtes surpassé, on a eu trois excellentes questions. Fait que, on va commencer avec la première. Dans le fond, la première, on va y aller pour la fin, je pense.
Ouais, parce que c'est bon en tabac. Ouais.
Alors, la première c'est que je vais prendre, ça va un peu revenir sur le début du show. C'est
ça qu'on voulait pas trop en parler.
Ouais, c'est qui va avoir le plus d'impact dans son équipe? Ou, dans le fond, entre Cooper et Adams. On a un peu répondu déjà,
mais moi, je suis sans aucun doute Devontae Adams. Si on l'a vu avec Aaron Rodgers dans les dernières années, les années que Aaron Rodgers était MVP, c'est à cause qu'il y avait Devontae Adams. Ils se connaissent, ils savent où mettre la balle. Moi, je pense qu'il va être vraiment, vraiment un excellent joueur pour les Jets. Puis, comme on l'a dit, Tom t'a dit un peu tantôt quand on parlait des Bills, leur attaque est un petit peu moins explosive. Amari Cooper, du fait même, est un petit peu moins explosif que dans ses belles années. Mais c'est vrai qu'il remplit vraiment un trou chez les Bills, mais je pense vraiment que le duo Devontae Adams, Aaron Rodgers, ça va juste être dingue.
C'est qu'à côté fantasy, tu penses que la meilleure fin de saison, ça va être Adams aussi.
Ouais, même affaire, je pense.
Moi aussi, je pense de loin. Je serais même pas surpris de voir Adams
remonter. Là,
mettons, dans une 12-man league PPR, je pense quasiment qu'Adams pourrait être un receveur 1.
À partir de maintenant.
Peut-être, ou sinon c'est high tier 2.
Ouais.
Mais c'est
que Garrett
Wilson, je pense que ça va être les deux vont rester
il va rester un
mettons IP R2 les deux.
Ouais, c'est ça.
Puis pour Cooper, je dirais plus quasi limite
Flex Fringe 2 là.
Ouais.
Parce que en tout cas, c'est difficile à se prononcer parce qu'on
les a pas vu encore. Peut se tromper, il y a complètement dans le champ aussi. Peut-être que la connexion Cooper puis Allen va être crazy.
Ouais, c'est ça. Mais selon ce qu'on voit, ce qu'on connaît des joueurs, j'ai vraiment l'impression que ça va être Allen qui va avoir le meilleur des deux dans leur nouvelle équipe.
Mais bref, les deux équipes, je pense que.
Ils vont bénéficier de l'arrivée de leur nouveau venu, c'est sûr.
Ça va être une belle lutte pour la division entre ces deux équipes-là. Pour poursuivre là-dessus, ta deuxième question, c'était en lien avec ça en plus, c'est est-ce que les Jets vont faire les playoffs avec l'acquisition de T?
Je crois encore qu'ils vont faire les playoffs. Surtout comme on l'a dit dans la
FC. Mais on a easy schedule.
Ouais, j'ai leur schedule devant les yeux, justement.
Ça, c'est la première chose. Puis en plus que dans leur division, ils ont Pats puis Dolphins qui vont nulle part.
Qui vont nulle part. Dans l'AFC après.
Tua va peut-être revenir.
Et AFC West, on a les Chiefs largement en avance à 5-0. Mais à part de ça, c'est toutes des équipes avec qui les Jets peuvent avoir une meilleure fiche. Même chose dans le nord, puis après ça les Texans. À part les Texans, il n'y a personne de dangereux dans le sud. Fait que oui, je pense que les Jets vont encore se battre pour une place en série, puis ils vont sneak in, surtout maintenant que Aaron Rodgers a son nouveau joujou.
Les Jets sont 2-4, mais sont une défense élite. Si on Aaron Rodgers, un Hall of Famer, puis t'as Adams, Garrett Wilson, Alan Lazard, Breezall, même Brennan Allen comme mais deuxième porteur.
Ty Conklin qui fait pas du mauvais boulot au boss de l'élire
sur papier, ils sont loadés.
Ouais, sur papier, ils sont loadés.
Là, il va juste falloir qu'ils mettent ça à l'exécution et que ça commence à rouler.
Mais je crois encore à leur chance, ouais.
Pis là, la dernière question qui m'a fait me gratter le coco.
Ouais, moi aussi, si j'ai
fait le parce que là, si tu peux pas en avoir drôle. Alors, si vous aviez la chance d'avoir vu, si vous aviez eu la chance d'avoir vu l'avenir Fantasy 2024, ça serait qui vos 5 first picks? Fait que là,
faut prendre en compte ce qui est arrivé à date dans saison.
Cette question là, j'ai
pour la suite.
Bon, dans le fond, comment je la vois, c'est que si on part un Fantasy live, c'est quoi notre top 5?
Mettons qu'on vide toutes les clubs puis qu'on en draft. Dans la date d'aujourd'hui pour regarder les blessures.
Juste pour rappeler aux auditeurs un peu, là, j'ai sorti le top 8 à peu près unanime de tout le monde. Là,
au début de la saison, c'était selon ADP aussi.
Ouais, c'était pas mal CMC, Lamb Hill, ça c'était pas mal les 3, tout le temps 3-3. Après ça, t'avais les autres, ça s'alternait pas mal, mais généralement dans l'ordre, c'était Jamar Chase, Bijan, Breece Hall, Amon Ra, puis Jefferson après. Ça, ce top 8-là, c'est pas mal ça qu'on voyait. C'était pas mal le top 8.
Effectivement.
Fait que là, je vais te laisser commencer avec ton numéro 5.
Fait que mon numéro 5, il a pas joué beaucoup cette saison, mais quand il était sur le terrain, il était très bon. Je vais pour AJ Brown.
Ok, ouais.
Le des Eagles, ouais.
J'ai manqué de mettre 5e, mais je suis allé, ce que tu vas voir.
Sa moyenne par match de plus de 20 points, je pense, en fait.
22,
ouais. Très intéressant. T'es très bon sur le terrain quand il était sur le terrain cette saison, donc je serais vraiment pas hésitant pour la suite.
Moi, c'est Saquon Barkley. J'ai manqué le TG, mais mon 5e, ça va être Barkley. Dans le fond, on a pu voir un dernièrement qui a fait moins de points en fantasy, mais dans les premières semaines, on le voyait quand toute l'attaque était en santé, qu'est-ce qu'il pouvait apporter. Fait que moi, je pense que ça va là. À moi que les gars se reblaient, je pense que c'est parti, puis ça va,
exactement.
Ça va être payant.
Maintenant que dans l'attaque, il se back on track, c'est sûr qu'il va être payant. Tu veux-tu y aller avec ton numéro 4?
Je peux continuer à un autre. Un autre un peu joueur semblable, Bijan Robinson. Bijan Robinson, on voit que l'attaque est vraiment dynamique du côté des Falcons, mais il y a une affaire qui m'énerve un peu, mais là on voit que les Falcons sont bons, ils jouent dans une division poche. J'ai l'impression qu'ils vont peut-être commencer à sacrer des volets du monde. Puis quand que tu mènes, ils ne voudront jamais blesser Bijan, puis ils ont quand même un bon 2 comme un bon truck, là.
Ouais.
All gear. Fait que si on l'a vu dernière game, même si Bijan a une grosse game, c'est Allgear qui a ramassé les carries pour écouler le temps. Fait que
Bijan a quand même fait 2 touches.
Ouais, c'est ça, mais je pense quand même que Bijan, au début c'était un peu lent, mais là je pense que les Falcons, c'est l'attaque que tout le monde pensait que ça allait être, puis il y a beaucoup d'opportunités.
C'est ça, c'est là.
Puis c'est le catching back aussi.
Exact. Pour mon quatrième, moi je vais avec un choix, tu me diras ce que t'en penses, mais je vais y aller avec Joe Mixon, des Texans. Un choix qui sera pas
l'unanimité. C'était genre un choix de 3-4 ça, début de l'année.
Qui sera pas l'unanimité. Il a joué 3 matchs cette saison, donc encore une fois je vais avec du small simple, mais d'avoir les Texans jouer cette saison, et il prend en compte qu'il a un average de points de 21 par match avec tellement de touches. Quand il joue, que honnêtement.
Non, c'est pas un mauvais choix. Je l'avais pas
mis dans mon top 5. Surtout une attaque qui va scorer vraiment beaucoup de points cette année. J'ai vraiment l'impression qu'il va scorer des touchdowns un peu à la Henry pour le reste de la saison, peut-être. Fait que, ouais, Joe Mixon.
Ouais, c'est bon.
J'ai dit, va avec ça.
Tu viens de spoil mon numéro 3. Le roi Henry.
Le roi Henry.
C'est sûr que je suis vraiment biaisé par ce choix-là, mais on l'a dit tantôt, 700 verges. C'est 8 touchés en 6 games. J'ai souvent dit que tu gagnes des fantasy avec des touchés. Je pense vraiment que Henry, c'est. He's for real. Plus. Il était haut des attentes qu'on pensait. Il sortait comme en deuxième round. Là, je le vois vraiment comme le bon vieux Henry. Pis,
qui était keeper sans équipe.
Puis l'attaque des Ravens, c'est l'avancement selon les points et les verges. Je pense son numéro 1. Mm-hmm. Fait que tu vois que.
Ouais, ça marche.
Toutes les as sont alignées pour qu'ils produisent.
Effectivement. Mon numéro 3. Un autre choix non controversé. Malik Neighbors, lorsqu'il était sur le terrain cette saison, il a une moyenne de. Ben, en fait, il a 39% des passes des Giants qui sont dirigées vers lui. Donc, c'est complètement absurde comme stat. Et je pense que la majorité des experts le placent à chaque semaine dans le top 3 des potentiels top scoreurs à la position de receveur. Et puis, également, étant une recrue, je pense qu'il va scorer des touchdowns, il va être explosif. Malik Neighbors, numéro 3. Surtout pour le volume.
Ok, j'aime ça. Je vais aller avec mon deuxième, un joueur que je déteste, mais que j'ai pas le choix de donner des crédits, lancer des fleurs.
Jamar
Chase, un rival de division.
C'est mon deuxième aussi.
Ah ouais?
Ouais, c'est mon deuxième aussi.
Ce gars-là, là, c'est le receveur qui peut te voler une semaine à lui tout seul, genre un 200 verges, 3 touchés, peut-être pas trop, mais genre 2-3 ouais. touchés, 15 catchs. Puis là, une autre affaire qui est bonne là-dedans, c'est que la défense des Bengals est tellement à poche cette année. Ils sont tout le temps en train de perdre, fait qu'ils n'ont pas le choix de lancer la balle.
Effectivement.
Puis
ça favorise vraiment son.
Ça light, c'est ça, c'est sûr.
Effectivement.
Puis, tu sais, on sait qu'ils vont jamais donner de volée à personne parce que leur attaque est tellement pas bonne, à part contre les Giants que. Giants, ils vont pas réussir à en profiter.
God.
Mais à part de tout ça, tu sais, ils ont accordé 41 points contre les Ravens, 24 contre la Caroline. 38 contre Washington.
38 contre Washington, ça c'est.
26 contre les Chiefs, tu sais. Fait que ça sera jamais ça,
ils vont voir du rubber.
Ils vont être obligés de lancer la balle. Tout
exactement.
Le
temps. Mon numéro 1, est-ce qu'on a le même? On avait le
non,
même
pas le
numéro
2. Non.
Ok.
C'est qui?
Moi c'est Alvin. The Chipmunk Camara. Quelle saison encore les Saints avec Camara. Un peu comme Tyler Lockett, à chaque année on dit bon, il est dû pour régresser.
Ouais, lui c'est le pire, hein. C'est rare des running backs qui sont bons longtemps de même.
Puis autant ouais, impactful, vraiment, là, tu connais encore toute une saison qui est RB1 en fantasy, en PPR, moyenne de 23 points par match. Là, c'est sûr que comme on disait.
Une game de 44 points qui.
Exactement, là, c'est sûr que ça floue un peu les stats, mais quand même une méchante bonne saison. Alors, Camara, moi je serais très confiant de l'avoir comme numéro 1.
C'est bon. Moi, je vais aller avec mon numéro 1. Encore une fois, c'est le cœur qui parle. Justin Jefferson.
Ah, c'est parce que je l'ai oublié, mais en fait,
Ben, on oublie, tu sais, mettons, on n'a pas mis CeeDee Lamb non plus. Mais moi, c'est Jefferson. Je trouve que c'est le receveur le plus constant depuis 3 ans. Pas une game en bas de 15 points. On voit que Sam Darnold, ce qu'il est capable de faire. L'attaque va bien, fait que.
Ouais.
Je vois pas pourquoi. Mettons, tu me dis, faut que tu startes un gars. À toutes les semaines, le premier qui me vient en tête, c'est toujours Jefferson.
Effectivement. Non, c'est pas un mauvais choix. J'aurais essayé de le sneak in. J'ai essayé de le sneak in. J'ai pensé entre lui et Jay Brown. Là, c'était serré. Mais ouais, c'est ça. C'est un bon choix comme numéro 1.
Fait que merci pour la question. Ça, c'était une bonne question.
Ouais, super question. Ouais.
Ça fait te réfléchir pas mal.
Effectivement. Alors, sur ce, on a fait le tour cette semaine de ce qu'on voulait discuter avec vous. J'espère que vous avez apprécié l'épisode, même si nous êtes par défaut de manque de collaborateurs. Il me reste juste à vous souhaiter un bon match de foot ce soir et une bonne fin de semaine.
Dans le bunker du sang.